9. Alors, pour situer le contexte, donc, on parle du prophète Élie, de sa fuite, et lorsqu'il va se réfugier dans une caverne. Donc, ça se passe au temps du roi Akab. Il est dit que le roi Akab avait fait tout ce qui déplaisait à l'Éternel, encore plus que tous ceux qui l'avaient précédé. Donc, c'était vraiment le plus mauvais entre les mauvais. En effet, il avait abandonné l'Éternel et il s'était consacré au Dieu païen. Il avait même épousé une femme païenne du nom de Jézabel. Alors Dieu utilisait à ce moment-là Élie comme prophète pour convaincre le peuple de son erreur. Alors ça n'a pas plu à Jézabel qui l'a fait savoir à Élie. Et lui a fait savoir qu'elle allait mettre tout en œuvre pour le tuer. Alors Élie, il prend peur et alors il va se sauver et s'abriter dans une caverne. Mais je ne raconte pas plus parce que sinon, c'est plus nécessaire de lire le passage. Alors on va relire ce passage où Élie donc fuit et il est découragé et il va se réfugier dans une caverne. Donc c'est 1 Rois chapitre 19 à partir du verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin. » On peut s'arrêter ici. Alors, nous voyons que dans ce passage, donc, nous voyons un Élie complètement découragé, vraiment dans un état sévère de dépression, au point qu'il demande même à Dieu de le faire mourir. Il a perdu tout courage, toute volonté. Il voudrait en finir avec tout ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir un peu ensemble comment Dieu, quels moyens, quelles méthodes il va utiliser pour remettre Élie debout. Alors, nous voyons d'abord qu'il y a, trois phénomènes naturels qui vont se succéder. Un vent fort et violent, un tremblement de terre, et puis enfin le feu, un feu. Qu'est-ce que Dieu veut communiquer à Élie en faisant défiler ces trois phénomènes naturels? Sans doute, Dieu veut lui rappeler qu'il est le Dieu tout-puissant et redoutable. C'est en effet ce qu'on peut dire de chacun de ces trois phénomènes. Puissant, redoutable et même parfois destructeur. Alors Dieu veut rappeler à Élie que, ayant un allié aussi puissant, il ne devrait pas avoir peur, il ne devrait pas craindre. Et ça s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Nous avons en Dieu un allié puissant et redoutable. Qu'avons-nous donc à craindre? On l'a dit tout à l'heure, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? David en était convaincu car il dit dans le psaume 56, au verset 4 et 5, « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie, je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» Mais alors, pourquoi Dieu n'est pas dans les trois phénomènes naturels qui vont défiler devant Élie? Et pourquoi, en revanche, il est dans le murmure doux et léger? Alors, on va tenter de répondre à cette question en reprenant chacun des trois phénomènes qui vont apparaître. Alors, d'abord, il y a un vent fort et violent. Alors, un vent fort et violent, une tempête, c'est quelque chose d'effrayant. Moi, ça me fait penser à quelque chose d'effrayant. C'est vrai que quand on voit les ouragans, dans ces pays lointains, là, quand on voit les dégâts, c'est effrayant. Moi, c'est quelque chose qui m'effraie, le vent. Quand j'entends le vent, la tempête et les volets qui tremblent là, contre les fenêtres, là, moi, je n'ai pas trop bon. Et c'est quelque chose d'effrayant. Mais Dieu, ce jour-là, n'est pas dans le vent. Par contre, en d'autres temps, en d'autres dieux, en d'autres lieux, Dieu était dans le vent. On peut prendre par exemple dans Matthieu au chapitre 8. Du verset 23. Donc c'est le fameux passage de la tempête. C'est quand Jésus va apaiser la tempête. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve ! Nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Alors, voilà, donc, la tempête s'élève, la mer est démontée, les vagues submergent la barque, et les disciples, ils sont pris de panique. Ils sont complètement paniqués. Ils réveillent Jésus et ils lui reprochent de dormir. Tu dors pendant que nous, on craint pour notre vie. Et Jésus leur répond, gens de peu de foi. Dieu était ce jour-là dans le vent, parce que les disciples avaient besoin de prendre conscience de la faiblesse de leur foi. Parfois, Dieu permet que la tempête se lève et souffle dans nos vies pour nous montrer à quel point notre foi elle est faible. Et c'est vrai que lorsqu'une épreuve se présente dans notre vie, on est prompt à céder à la panique. Au lieu de se rappeler que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu ne laissera pas ses enfants sans secours. Mais ce jour-là, Dieu n'est pas dans ce vent parce que Élie, il est suffisamment effrayé comme ça et il n'est pas nécessaire de faire un test pour comprendre que sa foi, elle est descendue au troisième sous-sol. Donc, ce n'était pas nécessaire que Dieu soit dans le vent ce jour-là. Alors après, il y a un tremblement de terre. Alors lors d'un tremblement de terre, des constructions sont effondrées. Il y a des paysages qui autrefois étaient familiers et qui sont complètement transformés. Les hommes sont, après, ils sont hébétés, perdus, ils sont déstabilisés aussi. Parce qu'ils ont placé leur confiance dans des choses qui leur paraissaient solides, immuables, éternelles. Et puis tout d'un coup, ils viennent de réaliser que toutes ces choses, elles peuvent s'écrouler sur quelques instants. Alors ils sont complètement perdus. Mais ce jour-là, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre avec Élie. Par contre, en d'autres temps et en d'autres lieux, Dieu était dans le tremblement de terre. On peut prendre un exemple au temps où Paul et Silas prêchaient l'évangile dans la ville de Philippe, en Macédoine. Ça se trouve dans Actes au chapitre 16. À partir du les versets 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors, voyez donc, suite à ce tremblement de terre, la réaction du geôlier est très intéressante. Hein. Voilà, c'est un homme qui est confortablement installé dans sa petite vie. Hein, il est fonctionnaire, gardien de prison. Toute ressemblance avec une personne existante dans cette salle est purement fortuite. Donc, il est bien installé, il a un bon petit job. La sécurité d'emploi, il n'a pas encore la sécurité sociale, ça n'existait pas encore. Mais enfin, il est bien installé, il a de quoi pourvoir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Il pense qu'il contrôle bien la situation. Hein. Et, il a confiance au mur épais de sa prison, il a confiance aux lourds barreaux qui ferment les cellules. Il a mis des chaînes solides aux pieds des prisonniers. Tout est sous contrôle. Alors, tout étant sous contrôle, il peut dormir tranquille, se dit-il. Mais le réveil va être plutôt violent. Alors, il va prendre conscience que tout ce bel édifice qui le rassurait s'est écroulé. Et il réalise à ce moment-là la fragilité de son existence. Et que son existence, elle dépend de la volonté de Dieu. Donc, ça ne dépend pas de lui, mais de la volonté de Dieu. Et alors, il se tourne vers les apôtres et il va leur demander qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Parfois, Dieu permet des tremblements de terre dans nos vies, des bouleversements qui nous déstabilisent. Et ça pour que nous nous rappelions que nous dépendons de lui. Peut-être que nous nous sommes tellement investis dans un projet que nous avons mis Dieu de côté. Nous l'avons oublié. Peut-être que nous sommes tellement investis dans un projet que nous ne nous sommes pas demandé est-ce que ça correspond à la volonté de Dieu pour moi. Peut-être aussi que nous avons placé notre confiance dans des choses matérielles aussi. En oubliant que nous dépendons de Dieu. Alors Dieu peut utiliser ce moyen et provoquer un bouleversement dans notre vie pour nous rappeler à l'ordre. Parfois, il utilise aussi ce moyen pour pousser quelqu'un à la repentance, comme pour ce gardien de prison qui prend conscience de la fragilité de la vie et qu'il y a des choses bien plus importantes. Mais ce jour-là, avec Élie, Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Parce qu'Élie, eh bien, il est déjà suffisamment ébranlé et il n'est certainement pas nécessaire de lui rappeler la précarité de son existence parce qu'il en a pleinement conscience à ce moment-là et c'est pour ça qu'il s'est enfoui parce qu'il a pris peur donc, pour sa vie. Et donc, ce n'est pas nécessaire de lui rappeler tout ça. Alors Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Alors ensuite, il y a un feu. Alors le feu, évidemment, ça nous rappelle le sinistre, hein, les incendies, les dégâts que ça peut occasionner. Mais moi, ça m'a fait penser aussi que c'est quelque chose qui peut être utile pour détruire quelque chose qui est nuisible. Par exemple, lorsqu'on ne connaissait pas les antibiotiques, on utilisait le feu, par exemple, pour cautériser une plaie, une blessure, pour qu'elle cicatrise, pour empêcher l'infection. On utilisait le feu pour se débarrasser, par exemple, de vêtements qui avaient été contaminés par une maladie infectieuse ou quoi. Et donc, le feu peut servir à détruire quelque chose de mauvais. De nos jours, on utilise des rayons aussi pour détruire les cellules cancéreuses. Et donc le feu peut être, on va dire, purificateur. Mais Dieu n'était pas ce jour-là dans le feu. Par contre, en d'autres temps et en d'autres lieux, Dieu était dans le feu. Par exemple, à l'époque d'Abraham, à Sodome et à Gomorre. Genèse 19. Verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Vous voyez que ce jour-là, Dieu était dans le feu. Dieu était dans le feu qui a détruit ces deux villes. Dieu a utilisé ce moyen pour détruire le mal qui s'y trouvait dans ces villes et empêcher que ce mal puisse se propager à d'autres villes. Comme on le fait pour une épidémie. Parfois, Dieu permet un feu dans notre vie sous la forme d'une épreuve, d'une souffrance. Peut-être parce qu'il veut éliminer quelque chose de mauvais, de nuisible en nous. Et bien sûr, ça fait mal. C'est douloureux parfois de se débarrasser d'un péché, de quelque chose de mauvais. Mais c'est pour notre bien que Dieu agit ainsi. Si Dieu permet une épreuve, une souffrance dans notre vie, ce n'est pas parce que ça lui plaît, mais c'est parce qu'il agit comme un père. Et c'est ce que dit Proverbe 3,16, « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Et c'est vrai qu'un père qui n'aime pas son enfant, ben, il ne se préoccupe pas trop de s'il est sur une mauvaise voie ou quoi. Tandis que le père qui aime son enfant, eh bien, il essaye de le ramener sur la bonne voie. Et parfois, il utilise des méthodes qui sont douloureuses. Mais ce jour-là, avec Élie, Dieu n'est pas dans ce feu. Parce que Élie, il est déjà dans la souffrance et il n'a vraiment pas besoin de cela en ce moment. Alors, pour résumer, ces trois phénomènes naturels, ça me fait penser à trois moyens que Dieu peut utiliser pour communiquer avec nous, pour nous corriger, pour nous rappeler son existence, ou bien pour réaliser ses plans. Et si Dieu n'est dans aucun de ces trois phénomènes ce jour-là, c'est parce qu'aucun de ces moyens n'est adapté à la situation, à l'état dans lequel se trouve Élie. Alors, de quoi Élie a besoin à ce moment-là? Alors, nous voyons qu'après le vent, après le tremblement de terre, après le feu, voici que Élie entend un murmure doux et léger. Quel contraste! C'est le calme après la tempête. Après la tempête, le tremblement de terre, le feu, un murmure doux et léger. Moi, j'ai été frappé par ce contraste. Ce dont Élie a besoin à ce moment-là, c'est d'être rassuré, c'est d'être réconforté, chouchouté même. Et dans ce murmure, Dieu lui fait savoir qu'il ne lui en veut pas. Qu'il ne lui en veut pas d'avoir craqué, d'avoir eu peur, d'avoir manqué de confiance. Il ne lui reproche rien. Et il lui fait savoir que son Dieu est toujours à ses côtés. Et ça rappelle aussi ce que nous lisons dans Ésaïe 66, 13. « Ainsi parle l'Éternel, comme quelqu'un que sa mère console, aussi moi je vous consolerai. » Et ici, ça me fait penser à ça. Vraiment une mère qui console son enfant. Et voilà, et ça marche, parce que lorsque Élie entend le murmure doux et léger, il sort de la caverne. Dieu utilise toujours le moyen approprié à la situation, aux circonstances et à l'état dans lequel nous nous trouvons. Si le vent, le tremblement de terre, le feu sont ici des manifestations de la puissance de Dieu et des moyens radicaux dont il dispose, ce murmure doux et léger, cela nous rappelle l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu, la paix de Dieu. Alors nous, on aimerait bien sûr que Dieu nous parle toujours dans un murmure doux et léger, hein. Plutôt que par la tempête, le tremblement de terre ou le feu. Hein. Hein, c'est vrai. Hein. Ah Seigneur, moi j'aime bien quand tu me parles dans un murmure doux et léger, hein, parce que le tremblement de terre, j'aime pas trop. Hein, j'aime pas trop quand tu me secoues comme ça, ou quand tu fais venir des tempêtes dans ma vie, hein, j'aime pas trop. Hein. J'aime mieux quand tu me parles dans un murmure doux et léger. Mais si Dieu nous parlerait toujours dans ce murmure doux et léger, est-ce qu'on l'écouterait? Parce que nous sommes souvent si lents à obéir, si lents à comprendre. Est-ce que ce serait efficace? Alors parfois, Dieu, qui sait quel moyen il doit utiliser à quel moment de notre existence, eh bien, il utilise parfois des méthodes plus radicales. Dieu est puissant et redoutable, mais heureusement pour nous, il est aussi bon et miséricordieux. Je crois qu'il faut se rappeler que il faut regarder Dieu avec tous ses attributs. Nous, on préfère ne considérer que l'amour de Dieu. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, ça nous fait du bien. Et on oublie parfois que Dieu est puissant et redoutable. Et c'est une erreur. Nous devons considérer Dieu dans tous ses attributs, dans son entièreté. On ne peut pas séparer ça, ces deux aspects de Dieu. Tout ça nous rappelle aussi que Dieu, il aurait pu utiliser sa puissance redoutable contre nous suite à notre désobéissance, suite à la chute, suite à notre rébellion. Mais il a préféré user de miséricorde en donnant son Fils afin de subir le châtiment que nous méritions. Alors aujourd'hui, si nous avons accepté Jésus comme Sauveur, nous pouvons nous réjouir parce que nous n'avons plus à craindre cette puissance redoutable. Parce que Dieu est devenu notre Père. Paul dit dans Romains 8, 15, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Le Dieu tout-puissant et redoutable est devenu notre Père. Et c'est vrai que nous pouvons nous réjouir parce que nous avons été adoptés et parce que nous n'avons plus à craindre cette puissance redoutable. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus craindre Dieu, mais nous devons le craindre dans le sens que nous devons avoir du respect pour lui. Mais nous n'avons plus peur de ce jugement qui planait au-dessus de nos têtes, comme l'épée de Damoclès dont j'avais parlé l'autre fois. Mais pour être complet, il faut aussi dire donc, que pour tous ceux qui refusent cette grâce, ce salut, Jean-Baptiste a dit dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors, Dieu est amour, c'est vrai, mais il peut être aussi redoutable. Et mon frère Ernest l'a dit dans sa prière tout à l'heure, et je l'avais inscrit ici. Dans Hébreux 10, 31, nous lisons, « C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Alors voilà ce que j'avais à vous partager ce matin. Ce que m'a inspiré ce passage, d'un côté nous avons des manifestations qui nous rappellent que la puissance redoutable de Dieu, hein, des choses effrayantes, redoutables, le vent, la tempête, le tremblement de terre, le feu, et puis d'un autre côté nous avons un murmure doux et léger, mais nous devons bien nous rappeler que tout ça va ensemble, et ne pas nous contenter de ce qui nous plaît, nous agrée, hein. Pas nous contenter du murmure doux et léger, mais savoir aussi accepter que parfois Dieu peut être puissant et redoutable. Alors voilà ce que j'avais à vous partager ce matin. J'aimerais qu'on termine par un chant. Ce chant, ça nous rappelle le murmure doux et léger. C'est le chant, je ne sais plus quel numéro. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui me parle tout bas et qui me dit, je suis là. Mmh.